Soundshift a un projet de son et de ville entre Marseille et Istanbul.
Soundshift, sesler ve şehirler projesi Marsilya ve İstanbul arasında.
Troisième travelling radio aujourd'hui entre deux mers et deux continents. L'histoire et la géographie exceptionnelle de cette ville.
Üçüncü gezgin radyo, iki deniz ve iki kıta arasında. İstisnai tarihiyle ve coğrafyasıyla özel bir şehirde.
Entre Europe et Asie, une approche de l'histoire contemporaine de la Turquie, plus précisément d'Istanbul, et en particulier de Kadıköy, sur sa rive asiatique.
İki kıta, Avrupa ve Asya arasında. Çağdaş tarihe, Türkiye'nin çağdaş tarihine bir bakış İstanbul'da, özellikle Kadıköy'den.
Pour en parler avec nous, Korhan Gümüş, qui est architecte et journaliste.
Bizimle beraber olan konuklarımız Korhan Gümüş, gazeteci ve mimar.
Mehmet Rifat Akbulut, qui est historien, spécialiste de Kadıköy.
Özellikle Kadıköy'den uzman tarihçi Mehmet Rifat Akbulut. Ve şehirci.
Et Mahir İlgaz, coordinateur de Açık Radio.
Açık Radio coordinateuru Mahir İlgaz.
À la traduction, vous entendez la voix de...
Ayşe Gülay Hakyemez, Lokomotif Culture ve Sanat Derneği.
Et avec moi aussi, pour animer cette émission, Deniz Kololou et Eli Arigua, mes complices de Açık Radio. Je vous propose qu'on commence à nous diriger vers la gare, son entrée, qui est à quelques mètres de nous. Et peut-être pour situer un peu ce bâtiment, demander à Korhan et Mehmet son histoire. Je crois que cette gare de Haydarpaşa, elle a été construite en 1909.
Oui, inaugurée en 1909. Il est construit entre 1906 et 1909. Mais avant de cette gare, donc, qui est très impressionnant, un bâtiment très impressionnant, de style germanique, plutôt de Bavière.
Le néoclassique, c'est un bâtiment qui a été construit par une organisation évidemment allemande, parce que c'est le symbole de la grande network ferroviaire qui va jusqu'à...
Chemin de fer de Bagdad.
Bagdad.
C'est construit comme c'était le point de départ et le terminus du grand chemin de fer de Bagdad.
Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à Bagdad, mais je vous propose qu'on fasse quelques mètres le
ça
long des quais.
Şu anda Haydarpaşa garındayız. 1906'da inşa edilmiş 2. Abdülhamit tarafından ve Bağdat'a açılan Bağdat demiryolunun başlangıcı Haydarpaşa garındayız.
Alors, on est rentré dans la gare, on va faire quelques mètres le long des quais. Il est assez tranquille aujourd'hui en ce samedi.
Bugün cumartesi ve oldukça sakin bir gar günü.
Et peut-être sur l'histoire de cette gare, sur son architecture particulière, c'est un style bavarois, on vient de l'entendre. Est-ce qu'on peut rapprocher l'architecture de cette gare de l'architecture européenne qu'on peut trouver de l'autre côté, sur le côté européen d'Istanbul, à Pera?
Mehmet Rifat, lütfen bu garın tarihçesinden bize bahseder misiniz?
Bon, cette gare est construite au lieu d'un gare qui est aussi omniprésent sur le site avant de cet bâtiment. Donc, le gare précédent avait aussi un style européen, néoclassique, mais il était considérablement plus petit en dimension de cette gare. Sur le style européen architectural, donc je crois que c'est Korhan est plus dont l'expertise de Korhan est plus importante que la mienne, je crois.
Alors Korhan Gümüş.
Mais avant de passer le mot à Korhan, j'aimerais bien intervenir sur un point. Kadıköy est un exemplaire réussite de la modernisation urbaine de l'époque ottomane et même à l'éveil de la République. Donc, au 19e siècle, surtout à la deuxième moitié du 19e siècle, Kadıköy est en grande partie construit par des Européens, c'est-à-dire des Levantins, et puis de la bourgeoisie ottomane, y compris la population non musulmane.
Alors peut-être pour continuer un tout petit peu avant d'aborder de nouveau l'architecture européenne à Istanbul, justement sur cette population, sur le développement de la rive asiatique, puisque Mehmet, vous avez abordé ce sujet, des Grecs,
orthodoxes.
Des Levantins orthodoxes, on trouve d'ailleurs beaucoup d'églises orthodoxes à Kadıköy. Peut-être sur cette population au XIXe siècle dans cette région, à Üsküdar, à côté, et puis Kadıköy, là où nous sommes.
19. yüzyıldan beri Kadıköy, özellikle Levantenlerin ve Rum, Ermeni popülasyonunun oturduğu bir bölgeydi. Mehmet Bey tarihinden bahsetti ve şimdi mimari özelliklerinden Korhan Bey bahsedecek.
Kadıköy, dans un sens, est redécouvert et reconstruit au deuxième moitié du 19e siècle.
Moi, si je me rappelle bien, parce que je suis né dans ce côté et de la ville, et à ce temps-là, il y avait toutes des écoles françaises, des écoles juives, des écoles grecques dans la ville, et c'était tous ouvertes et en bon état.
Bu bölgede özellikle Musevilerin ve Ermenilerin okulları vardı ve hepsi de şu anda kiliselerde başta olmak üzere gayet iyi durumdalar mimari açıdan.
On peut même dire que la fonctionnalisation de ces gares, la construction de ces gares a été faite avec une série de transformations industrielles dans la ville. Donc le transport dans la ville a été industrialisé à la fin du siècle. Donc les bateaux, comme vous voyez, le chemin de fer ont été unis pour former un système métropolitain dans la ville. Et après ça, que les villages, les banlieues de la ville ont été réunis avec le centre de la ville. C'est grâce à cette transformation que la ville est devenue un espace métropolitain. Et comme mon grand-père qui allait chaque jour pour travailler au centre de la ville et retournait dans son village. Et c'est une structure qui a été changée justement avec l'industrialisation du transport.
Garların ve tren yollarının çok büyük bir önemi var şehircilikte. Endüstrileşmekte önemli katkıları oluyor. Şehir merkezini banyolere bağladığı için.
Et comme architecture, on peut dire que les Européens un peu ont découvert le système néoclassique et ils ont fait des utopies, peut-être des fantaisies comme ça, pour imiter. On ne peut pas dire que c'est une architecture classique européenne, mais c'est une reconstruction d'une image européenne, comme la plupart des architectes italiens, allemands, français qui ont venu à Istanbul, ils ont aussi imité l'ottoman, ils ont construit des bâtiments néo-ottomans. Vous pouvez voir aussi certains bâtiments.
Binanın mimarisinde klasik bir Avrupa mimarisi görmüyoruz. Burada İtalyan, Fransız ve Alman mimarların Osmanlı'dan etkilenerek daha farklı bir mimari ortaya çıkardığını görüyoruz. Bunu da neo-ottoman diye isimlendirebiliriz.
C'est un cas différent ici. C'est une société allemande. C'est pour ça que ce gare a été de style un peu néoclassique allemand, comme vous dites.
Éclectique en même temps.
Bu mimariye eklektik diyebiliriz çünkü Alman mimarisi var çoğunlukla göze çarpan özellikleriyle.
Alors là, on passe à l'instant devant une statue qui est à l'entrée du premier hall de cette gare. Et je vais peut-être vous proposer de nous dire qui l'on voit sur ce buste, qui est ce personnage qui est représenté.
Ve şimdi bir büstün önündeyiz. Bu şahsiyet için konuşabilir misiniz?
Puisque c'est un bâtiment national, ce n'est pas une société privée, donc avec toute la bureaucratie de la gestion du système ferroviaire, ici il y a un bureau d'État. Et dans tous les bureaux de l'État, il y a le buste d'Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk.
Bütün kamu binalarında olduğu gibi burada da bir Atatürk büstünü görüyoruz.
Alors là, nous sommes face aux quais qui vont en direction de Bagdad, en direction de l'Anatolie. Peut-être quelques mots sur l'exode rural, sur toutes ces populations qui sont venues à partir du moment où la gare a été construite pour grossir les rangs, grossir la population de Istanbul.
İstanbul'un nüfusunu artırmaya önemli katkıda bulunan bir demir yolu başlangıcıdayız. Bağdat yolunda Anadolu'ya doğru.
Peut-être on peut même dire que la structure de la ville a été formée d'une manière linéaire grâce à cette ligne qui en même temps évidemment qui réunit les banlieues. Donc c'est une ligne qui va jusqu'à Bagdad, même plus à penser faire aussi jusqu'à Mecque, vers le sud de péninsule arabique, mais en même temps, c'est une ligne qui unit la ville. C'est pour ça qu'il y a les trains de banlieue électriques ici. Et donc, la ville a été allongée comme ça au XXe siècle, quand la population a été augmentée.
Ve lineer bir çizgi doğrultusunda şehir büyüdü. Bağdat'a kadar hatta Bağdat'ın ötesinde
Bağdat Caddesi.
Mekke'ye doğru ve Bağdat Caddesi.
Mehmet Rıfat.
Öyle bir niyet vardı. Oui, donc sur ce point, je veux dire qu'il y a deux grandes nouveautés par le point de vue de la transportation urbaine au 19e siècle. Ce sont les chemins de fer et les bateaux. Donc les bateaux sont devenus avec le temps comme une colle forte qui réunit les différentes parties, surtout les parties outre-mer de la ville. Parce que quand on parle de l'Istanbul, c'est l'Istanbul essentiel, c'est la ville intramuro, c'est-à-dire le site historique sur la côte européenne. Donc Kadıköy et Üsküdar, ce sont des parties à part de la ville. Jusqu'au 19e siècle. Et avec les bateaux, ils se sont réunis avec la ville. Et donc, une tradition. Donc, ils sont devenus des parties qu'on habite de toute l'année. Des parties d'Istanbul qu'on peut habiter de toute l'année. Merci pour les bateaux, pour les services domestiques des bateaux. Et puis, le chemin de fer, comme on est déjà. Dit autour des stations des chemins de fer avec le temps on a développé des petits noyaux des agglomérations qui se sont devenus avec le temps des quartiers de la ville.
Ve şehir eski şehirde yani İstanbul Avrupa'da ortaya çıkmışken Kadıköy ve Üsküdar daha geride kalıyordu. Fakat ne mutlu ki vapurlar bu iki yakayı birbirine bağladı ve giderek şehir nüfusu arttı ve demir yolunda buna katkısı şehrin büyümesi yolunda kalabalıklaşması yolunda oldu.
Deniz Kololu.
Je vais poser une question à vous les deux comme identité architecture, journaliste et le historien et le urbaniste. Comment on dit urbaniste. Mais c'est que cette question va être un peu personnelle. Comment vous comparez avec le côté d'Asie et l'Europe? Quand vous venez ici, comment vous sentez l'autre côté? Comment on peut comparer les sentiments des deux côtés?
Sizlere özel bir sorum var. Bir tarihçi ve bir şehirci ve mimar olarak Kadıköy yakasına geçtiğinizde nasıl bir duyguya kapılıyorsunuz şehirle ilgili?
Kadıköy pour moi, c'était la vie moderne. C'est bizarre parce que c'est Beyoğlu qui est moderne, mais pour moi, pour ma famille, ils ont quitté le centre de la ville pour quitter leur quartier et avoir une maison au bord de la mer. Donc la modernisation des quartiers a commencé, je pense, à Kadıköy parce que à Bağdat Caddesi, à Fenerbahçe, comme il y avait des villas des personnes riches avec l'industrialisation du transport, comme Mehmet Rıfat a dit, il y a eu un élargissement de la ville. Donc la ville a été explosée. Et donc les nouveaux quartiers ont été construits à Fenerbahçe, à Bostancı. Donc tous ces quartiers étaient avec des appartements modernes comme à Teşvikiye peut-être, Mais c'était, quand je suis né, c'était le temps de la modernisation de Kadıköy.
Ve Kadıköy'ü ben çok modern bir bölge olarak değerlendiriyorum. Şehrin büyümesiyle beraber modern binalar Bağdat Caddesi üzerinde ve Fenerbahçe'de özellikle bu yakada yapıldı. Ve ben burayı böyle modern bir şehir olarak görüyorum, Kadıköy'ü.
Alors on vient de rentrer dans le premier hall de cette gare avec de magnifiques vitraux début 20e siècle. On vient de passer devant cette statue de Atatürk et peut-être aborder maintenant, après la fin de l'Empire ottoman, la République turque. Quel impact a eu cette révolution sur les rapports entre la Turquie et l'Europe ?
Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasından sonra bu devrimin İstanbul üzerindeki etkilerini anlatır mısınız?
Avant de ça, j'aime bien ajouter quelques mots aux questions précédentes. C'est-à-dire, ça me paraît aussi important que cette question. C'était une très belle question. C'était la différence de l'identité entre les deux côtés de l'Istanbul. C'est, à mon avis, c'est une lutte tout à fait personnelle, mais je crois que les deux côtés de la ville sont développés dès le début des caractères, des identités, des caractères tout à fait très différents. Donc, c'est pour moi, par exemple, la côte européenne, c'est l'affaire, la sérieuse. Mais d'autre part, Kadıköy, c'est le plaisir, le hédonisme. Parce que longtemps, le Kadıköy était la partie de la villégiature de la ville. Même aujourd'hui, Kadıköy me semble une ville formée avec l'influence de plaisir par rapport à la côte européenne.
Çok güzel bir soruydu bir önceki soru. Avrupa ve Kadıköy arasındaki şehir farklılıkları. Buna cevap vermek istiyorum. Bu iki tarafında kişilikleri çok değişik. Bence Avrupa ciddiyeti temsil ediyor. Kadıköy ise zevki, belki de hedonizmi, keyfi sembolize ediyor.
Alors sur cette question de la République, de la Révolution turque et ce qu'elle a changé dans les rapports entre la Turquie et l'Europe, et peut-être plus particulièrement sur ce que ça a changé pour Istanbul.
Je crois que c'est la révolution de la République, c'est un point tournant très important pour l'orientation de l'État turc, disons. Mais c'était une, enfin, il y avait un processus qui date plus ancien dans le cas de modernisation, parce que. Les deux derniers siècles, à peu près, de l'Empire ottoman est passé ou est caractérisé par les envies de moderniser l'administration et l'État. C'était la structure de l'État et la société aussi. Donc, c'était un point tournant au long de ce long processus.
Parfois, nous oublions aussi la modernisation de l'Empire, parce que On a l'habitude de commencer la modernisation avec la République, mais c'est évidemment qui n'est pas très réaliste.
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte bir modernleşme sürecine girildi. Özellikle Osmanlı zamanında başlayan bu modernizasyonun realist bulmuyorum.
Parce que toutes les structures modernes de la Turquie républicains ont été déjà construits, comme Mehmet Rıfat a dit, il y avait deux siècles ou trois siècles de processus de modernisation de l'Empire. Et toutes les organisations modernes, les écoles, les structures scolaires, éducatives, le transport, les services publics ont été déjà construits au 19e siècle. La ville n'a pas suivi la modernisation, même je crois que Istanbul était un des centres de la modernisation dans la région. Il ne faut pas l'oublier.
Şunu unutmamak gerekiyor. Modern yapılaşma daha da önce, Cumhuriyet'ten çok daha önce başlamıştı. Eğitimiyle, ulaşımıyla ve hizmet sektörüyle. İstanbul'da bunun başkenti sayılır.
Il faut ajouter que quand Corhan parlait de la région, c'est-à-dire Istanbul était le noyau fort de la modernisation de la région, c'est pas, il ne faut pas comprendre le sens de la région qu'aujourd'hui. C'est-à-dire la région dans le sens géostratégique, c'est-à-dire toute la Méditerranée de l'Est et le Moyen-Orient.
On peut ajouter aussi que la République a approprié cette structure de modernisation de l'Empire.
Ve bunu Osmanlı İmparatorluğu'nun bir modernizasyonunun başlangıcı olarak kabul edebiliriz İstanbul'u bölgeyi. Ve İstanbul bugün bu bölge çekirdeğini oluşturmakta. Bütün Orta Doğu'nun hatta.
Alors on est dans un deuxième hall de cette gare de Haydar Pasha. On va continuer à parler de cette apparition de la modernité ou même du modernisme à Istanbul. Mais peut-être je voudrais vous proposer de décrire en quelques mots le lieu dans lequel nous sommes, parce qu'il est assez exceptionnel. Koran ou Mehmet.
C'est bien décoré là. C'est la salle d'entrée de la gare. Évidemment, l'espace qui est le plus
important
avec les guichets. Et on voit même la décoration a été conservée jusqu'à maintenant. Ce n'est pas très régulier en Turquie. On change tous les deux années la décoration. Ici, on n'a pas beaucoup touché.
Seulement il y a une permanence de décoration. Et en plus, peut-être l'audience peut entendre dans cette salle, il y a une acoustique qui est très considérable. Bon, je ne dis pas. J'utilise pas le mot formidable, mais c'est considérable.
Dikkat çekici bir akustiği var şu anda bulunduğumuz salonun. Burası Haydarpaşa Garı'nın giriş bölgesi, giriş salonu. Özellikle mimarisinin bugüne kadar korunduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Bu genelde böyle olmuyor bilindiği gibi.
C'est un bâtiment industriel. Il ne faut pas oublier, parce qu'on croit que les bâtiments de 20e siècle ou du 19e siècle, ce sont des bâtiments historiques. Non, avec une structure métallique que le bâtiment a été construit. Donc, c'est un bâtiment très moderne pour l'époque.
Burası modern bir yapı, metalik bir yapı. Onun için endüstriyel bir bina diyebiliriz Haydarpaşa Garı'na.
Alors, un bâtiment très moderne pour le moment de sa construction, au tout début du 20e siècle, 1909. Est-ce que après la Révolution, donc dans les années 30, on a vu l'apparence de la ville changer, peut-être un mouvement moderniste dans l'architecture et dans l'urbanisme de la ville d'Istanbul?
İstanbul'da 20. yüzyılın başında 1930'lu yıllarda bir modernist değişim dikkati çekiyor. Öyle değil mi?
Oui, bien sûr.
Mais on peut ajouter aussi. Que,
şunu ekleyebiliriz.
Pendant l'État-nation, on pourrait dire que quand on parlait de l'économie nationale, culture nationale, éducation nationale, même sport national, Istanbul respirait encore avec l'Europe, parce qu'on voit dans toutes les parties de la ville, même en 1950, en 1960, une relation très proche dans le domaine de l'architecture et dans l'art, avec toutes les villes de l'Europe.
İstanbul için şunu söyleyebiliriz. Avrupa'yla Avrupalı bir şehir İstanbul. Milli ekonomi, milli sanat ve mimarisiyle çoktan Avrupalılaşmaya başlamış bir şehir.
Même dans l'époque républicaine. Parce que oui, au 19e siècle, la ville était une ville de l'Europe, c'est sûr. On le voit bien, mais pendant l'époque des nationalismes, la ville encore respirait avec peut-être avec la population grecque, avec la population arménienne, avec la population moderne qui reste de l'éducation ottomane. Et la ville continue à être en communication, être dans le network européen dans le domaine de l'architecture.
günümüzde hala İstanbul Avrupa'nın bir parçası olmaya devam ediyor. Bunun ilk başlangıç sinyalleri Osmanlı İmparatorluğu sırasındaki gelişmelerden verildi. Eğitimden verildi bu mustarda sinyalleri.
Sur ce point, j'aimerais bien ajouter quelques informations, surtout pour l'audience française, c'est-à-dire les relations, surtout avec la France et la Turquie depuis l'époque ottomane. Par exemple, quand le premier ambassade turc, au début du XVIIe siècle, est arrivé à Paris, une nouvelle étape, un stade particulier dans le cadre des relations l'Europe et l'Empire ottoman est débuté.
Fransız dinleyicilerimize özellikle söylemek istiyorum ki 18. yüzyılda Paris'e gelen elçimiz 17. yüzyılda Paris'e gelen elçimiz özel bir dönem başlattı.
Oui, par exemple, ça peut paraître un peu intéressant, un des nouveautés qui a pris de l'Europe à cette époque était l'applaudissement, par exemple. C'était tout à fait très quelque chose de très joli, très intéressant pour les Ottomans à cette époque. Et un siècle plus tard, peut-être je crois que la plupart de l'audience française ne savait pas ça, le sultan a demandé de Louis XIV d'envoyer le nôtre, c'est-à-dire l'architecte très fabuleux de Versailles. Nous savons que le nôtre n'a jamais arrivé à Istanbul, mais il est envoyé ses assistants. C'était pourquoi ? Pour refaire, redessiner les jardins impériaux. Şöyle, Versailles, ilk Osmanlı elçisi işte 17. yüzyılın başında Paris'e vardıktan sonra 1600'lerin başı. Bir yüzyıl kadar sonra o zaman 14. Louis Fransa kralı ondan ünlü baş mimarı Le Nôtre isteniyor İstanbul'a gelip has bahçeleri yeniden tanzim etmesi özellikle Sadat vardı. Le Nôtre da Versailles'in mimarı, baş mimarı. Le Nôtre'un gelmediğini biliyoruz İstanbul'a ama en azından buraya kalabalık bir ekip yolluyor.
Alors l'on est sorti de cette gare, on est là face à la mer, une gare qui a pour caractéristique d'être une gare ferroviaire mais aussi une gare maritime pour aller en Europe de l'autre côté. On vient d'évoquer Le Nôtre, célèbre architecte français, ici au XVIIe siècle. D'autres échanges d'architectes et d'urbanisme au cours de l'histoire, et notamment, puisque ce qui nous intéresse c'est quand même l'histoire contemporaine d'Istanbul, plus récemment, au cours du XXe siècle, des urbanistes français qui arrivent à Istanbul, je pense par exemple à Prost, et peut-être quelques mots sur leur travail, comment est-ce qu'ils ont raisonné cet urbanisme d'Istanbul.
Prost a été invité par Atatürk. Même Le Corbusier était en contact, mais Le
Corbusier... Ça n'a pas marché.
Oui, parce que quand il était très jeune, Le Corbusier était à Istanbul. Il a passé 60 jours à Istanbul. Et il n'a pas aimé le centre moderne Beyoğlu. Il a été toujours dans le
peninsule historique.
Et il a dessiné les bâtiments byzantins et les bâtiments ottomans. Et il a aimé, évidemment, avec ça. Il avait un talent déjà à 23 ans d'une modernité différente, qui n'est pas imitative, qui n'est pas néoclassique. Donc, c'était une rupture avec le programme architectural de l'époque. Şimdi burada tabii yani şey çok Prost'a gelmeden önce Prost çünkü şey tarafından Atatürk tarafından davet edilmişti. Le Corbusier'in de bir ilişkide olduğunu biliyoruz. Fakat Le Corbusier çok genç bir yaşta İstanbul'a gelmişti ve bu neoklasik mimarlıktan hiç hoşlanmadığı için daha o zaman kendi dehasının şeyi olacak, göstergesi olacak bir şekilde sürekli tarihi Yarımada'daki mahalleler ve Bizans yapılarını ve Osmanlı yapılarını kalemle şey yapmıştı, çizmişti. C'est pour ça qu'il a répondu à le chef de la République ne touchez à rien, il n'a pas invité. à cause de cette réponse qu'il a perdu la chance de planifier Istanbul, et son rival, c'est M. Henri Prost qui a été invité.
Alors, on a raté l'opportunité d'avoir une cité radieuse à Istanbul. En revanche, peut-être sur comment Prost, peut-être les urbanistes qui l'ont suivi, se sont confrontés aux réalités politiques locales, aux pouvoirs locaux, à l'administration, à la municipalité.
Ve böylelikle şehri yeniden şehirciliği yapmayı reddetti. Ve
şehri yeniden kurmayı kabul etmedi. Evet. Oysa ki
çünkü
Prost,
olduğu gibi bırakılmasından yanaydı. Gezip 60 günlük seyahati boyunca edindiği izlenimden sonra.
C'était le voyage à l'Orient, je crois.
Mehmet
Fatspa. C'est le célèbre voyage à l'Orient de Corbusier.
Donc il faut bu, Corbusier'in 60 günlük meşhur Anadolu seyahati sonrasında idi.
Donc il faut aussi il ne faut pas oublier qu'il y avait un dialogue des sourds entre le Corbusier et la République. Donc ils ont Corbusier, on croit qu'il avait toujours envie de pratiquer en Turquie. Mais malheureusement ses envies n'est jamais réalisée. Même après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a demandé de faire un plan directeur, pas pour Istanbul, mais pour İzmir. Mais cette fois-ci, je crois, Corbu a perdu une grande partie de ses ambitions. Donc, il a dessiné un plan directeur pour İzmir, mais pas sur le niveau de son talent. C'était un plan un peu, comment on dit, régulier, oui, en esquisse.
Corbusier, Cumhuriyet'le sağır bir ilişki içine girmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İzmir için tekrar Türkiye'ye davet edildi. Fakat bu sefer artık yeteneklerinde bir kayıp söz konusuydu. Yaptığı, çizdiği sadece bir başlangıç, bir ilk taslak gibi oldu.
Alors on est en train de descendre les marches de la gare, on se dirige vers un embarcadère dans un style néo-ottoman dont on pourra peut-être parler, mais tout d'abord on a devant nous une image qui est assez saisissante puisqu'on a à la fois des industries portuaires devant nous sur cette côte asiatique juste à côté de nous et dans le fond la pointe Lucerail avec le palais de Topkapı, avec Sainte-Sophie, un paysage dans lequel l'industrie et le patrimoine se bousculent, et c'est tout à fait en écho de ce qu'on vient de dire à l'instant des préoccupations des urbanistes, savoir comment gérer le patrimoine historique de la ville et en même temps ses nécessités économiques, la nécessité de son développement. Peut-être, Koran, l'industrie s'est installée à Istanbul au cours du XXe siècle, tout au long de ce siècle, et elle s'est installée vraiment au cœur de la ville.
Oui, la ville était une ville industrielle à ce temps-là. Haliç, la Corne d'Or, c'était le centre de l'industrie à ce temps-là. Et c'est pour ça que l'embarquement de la gare et les matières qui ont été apportées avec le chemin de fer, on faisait les dépôts ici, on les stockait ici, dans les silos que vous voyez, dans les grands bâtiments. Et c'était les Allemands qui ont commencé d'abord à construire ces grands silos. Mais après, pendant la République, évidemment, la ville continuait d'être une ville industrielle. C'est pour ça que l'industrie d'alimentation nécessitait le blé qu'on stockait ici. Et toute la fonction encore qui a été très discutée maintenant de transport avec les containers continue d'être ici.
Alors on poursuit notre promenade, cette fois-ci on est dans la partie navigation de ce terminal et on va pour rentrer prendre le bateau. Et on continue à discuter de cette évolution industrielle à Istanbul. Je suis toujours avec Koran et avec Mahir Ilgaz et avec Mehmet Rifat Akbulut. Mais Maître Ifad, peut-être un mot.
Oui, c'est merci à la radio Grenouille parce que c'est pour la première fois que j'ai passé le guichet sans payer.
Ça a quelques avantages parfois de faire de la radio.
Oui.
İstanbul tarihi Haydarpaşa'dan İstanbul'un tarihi sitesine bakıyoruz karşı tarafa, Sarayburnu'na. Topkapı Sarayı görünüyor. Meşhur Ayasofya Camii görünüyor. Ve şu anda müzeleşen Ayasofya görünüyor. Ve Kadıköy'ün Haydarpaşa tarafı yıllarca tarihte hep bir Anadolu'ya gidecek ticari depola, malların yüklendiği bir depo görevini gördü. Bugün de iskelenin, tarihi iskelenin sağ tarafında bir tersane var. Aynı konteynerları bugün de görebiliyoruz. Şu anda da tarihi iskelenin içindeyiz.
Il faut noter que le bâtiment qui a été peut-être dans la même époque avec la gare,
oui.
On a d'abord construit la gare peut-être après ce bâtiment pour le comme le terminal des bateaux et d'une style tout à fait différente.
Oui,
c'est sûr. C'est un bâtiment aussi néoclassique, éclectique, mais de style ottoman.
Ottoman.
Donc vous voyez comme les bâtiments publics ont été construits au commencement du XXe siècle.
Vous voyez les arches orientaux, tout à fait
différent. 20. yüzyıl kamu binalarındaki gibi şu anda garla beraber önce gar inşa edilmişti, sonra iskele, ama stillerinin aynı olduğunu görüyoruz. Neoklasik ve eklektik yapılar.
Alors là, on est en train de s'enfoncer avec la foule pour rentrer dans le bateau.
Şu anda iskeleden vapura doğru ilerliyoruz.
Je voudrais en profiter pour poser la question à Mahir Ilgaz. Peut-être comment est-ce qu'il perçoit, lui, cette période du XXe siècle. Mahir, pour tout le dire, fait partie d'une nouvelle génération, c'est un jeune homme. Donc comment est-ce qu'il perçoit cette histoire contemporaine d'Istanbul et les transformations de la ville?
Je m'excuse parce que je dois parler en turc. Mon français parlant n'est pas très bien. İçeride garda özellikle İstanbul'un geri alanıyla, banliyöleriyle ilişkisinden bahsedilirken benim de dikkatimi çeken bir şey oldu. Bugün aslında 19. yüzyılda modern bir yapı olarak yapılan ve belki de modern İstanbul'un kendi interlandıyla bağlantısını sağlaması amacıyla yapılan bir binanın aslında eski İstanbul'un veyahut tarihten bize bir şeyler sunduğunu görüyoruz. Ben biraz bu buluşmadan önce gelmeye çalıştım. Bir yarım saat önce geldim ve her zaman olduğu gibi Haydarpaşa Garı'nda aslında ne kadar her zaman beni çarpan bir nostalji duygusu yine çarptı.
J'étais sur place avant notre reportage et j'ai contemplé le bâtiment de la gare Haydarpaşa et ça me donne un plaisir de le contempler parce qu'elle est très nostalgique et elle me fait souvenir de l'ancien Istanbul.
Alors la nostalgie, c'est quand même quelque chose qui est très présent à Istanbul, même pour les jeunes générations.
Özellikle gençler için bile nostalji bugün söz konusu demek İstanbul'da.
Evet, aslında nostalji İstanbul hissiyatının bir parçası diyebiliriz. Ama bu beni çarpan hisle ilgili olarak söyleyebileceğim başka bir şey de var. İstanbul'un hep Avrupalı olduğu, 19. yüzyıldan beri Avrupalı ola geldiği söylenmiş. İşte bugün baktığımız zaman İstanbul'un çeşitli yerlerinde belki de dünyanın tek hem Avrupalı hem de değilmiş gibi hissedebileceğiniz yeri olduğunu hissediyorsunuz.
Nostalgie, c'est le sens très basique. Quand vous êtes à Istanbul, vous le sentez. Et quand vous êtes là, dans cette ville, vous sentez et l'Europe et l'Asie en même temps.
Ancak en büyük farklardan bir tanesi de bugün hala garda yaşanan hislerden de benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'un kendisiyle Türkiye'nin geri kalanı arasında çok ciddi bir fark olduğu. Yani İstanbul dinamik bir şekilde, çok hızlı bir şekilde değişmeye devam ediyor ama Türkiye'nin geri kalanı o hızla değişmekten bundan çok emin değilim.
Il y a une mutation à Istanbul très très court, très très rapide et on se sent aussi la différence entre Istanbul et les autres villes de la Turquie.
Alors peut-être Mahir, quelle a été selon toi la place des médias dans l'évolution politique et sociale de la Turquie contemporaine? Quel rôle ont joué les médias dans cette évolution?
Siyasi ve ekonomik açıdan medyanın oynadığı rol neydi İstanbul üzerinde?
Her şeyden önce bir devrimden bahsetti kendisi. O kadar devrim niteliğinde bir dönüşüm oluyor mu çok emin değilim. Belki evrim diyelim buna ama benim için her şeyden önemlisi siyasi irade sağlanması açısından medyanın çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunun için her şeyden önce medyanın bağımsız olması çok önemli, siyasi iradeyi sağlamak açısından.
Alors, je nomme pas révolution, mais évolution. Et le média a un rôle initiatif, surtout politique.
Her şeyden önce medyanın bağımsız olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu değişim için gerekli dinamiğin sağlanmasında, itici gücün sağlanmasında. Bugün baktığımızda Türkiye'deki siyasi kamplaşmanın benzer bir şekilde medyaya da yansıdığını görüyoruz. Ve medyanın çok da aslında tüm medyayı içerek maalesef söylüyorum bunu, çok da bağımsız olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ve bir anlamda kendi ait hissettikleri siyasi kampların çıkarlarını savunma temelinde bir söylem benziyorlar.
Alors, je pense toujours pour l'évolution de la Turquie, un média surtout indépendant. Mais malheureusement que ce n'est pas le cas.
Peut-être sur cette question de l'indépendance des médias, du rôle des médias dans l'histoire politique contemporaine de la Turquie, Korhan Gümüş.
Dans l'histoire du XXe siècle, on voit qu'ici une compétition de grandeur des bâtiments. Avant le média, il faut souligner ça parce que ce bâtiment qui a été construit, la gare de Haydar Pasha, qui a été construite sur l'eau avec des points, comment on dit. On a donc voulu montrer une apparence impériale avec la coopération de l'Empire ottoman et avec l'Allemagne. C'est avant la Première Guerre mondiale que cette alliance a été réalisée. C'est le symbole d'une force, d'une alliance entre ces deux pays qui ont voulu patroniser tout le Moyen-Orient. Avec le nationalisme, ce projet a été terminé, mais avec le nationalisme, le média a été tout contrôlé, comme les bâtiments, le structure un peu éclectique de la ville du XXe siècle a été aussi nationalisé, les ports, les gares, les bateaux, tous ont été nationalisés. Donc tout le système urbain qui au commencement a été articulé avec des sociétés européennes différentes a été nationalisé en 1930. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une transformation très bien connue. Et le média a été, après ce temps-là, jamais indépendant. Et c'est jusqu'à peut-être 1990 qu'on a recommencé à discuter le radio indépendant, la presse indépendante. C'est donc, il y avait à Istanbul, évidemment, une époque très forte de nationalisation de tout le milieu civil.
Bağımsız medyadan konuşurken millileştirme hareketiyle özellikle mimar olarak binaların bile millileştirildiğine dikkati çekmek istiyorum. özel konumlarda yerleştirilmiş binalar özellikle 1930'lardan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir güç gösterisi olarak.
Aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki işbirliğinin önemli bir göstergesi Haydarpaşa Garı. Çok büyük bir bina, suyun üstüne inşa edilmiş bir bina ve bu bina aslında yakın Orta Doğu'nun aslında üzerindeki kontrolü simgeliyor. Yani bu aynı zamanda tıpkı
un accostage un peu brutal.
Bir güç şeyi. Bu İkinci Dünya Savaşı öncesi de millileştirmelerle birlikte gerçekleşti. 1930'lardan sonra bütün bu servislerin, şeylerin.
Ve medyanın bağımsızlaşması 1990'lardan sonra konuşulmaya ancak başlandı.
Alors, est-ce qu'on descend ici?
Oui, on vient d'arriver à Calicueil. On va peut-être attendre que tout le monde sorte et on va effectivement se diriger vers le quai. Descente du bateau à l'instant sur le quai de Calicueil après ces quelques 5 minutes de traversée entre la gare de Haydarpaşa et puis le débarcadère de Calicueil. Alors on a évoqué, Maître Rifat Akbulut, l'importance de la relation avec l'Allemagne, entre la Turquie et l'Allemagne à l'occasion de cette balade à la gare de Haydarpaşa. Une relation entre Istanbul et l'Allemagne qui est restée privilégiée jusqu'à aujourd'hui encore.
Moi, non, je ne pense pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe, par exemple, une légende entre l'Allemagne et la Turquie, c'est comme Made in Germany. Donc, il faut nommer cette légende. Donc, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, quand les experts allemands arrivent à l'Empire ottoman, avec leur influence, avec eux, une influence germanique est développée en Turquie. Cette influence est devenue beaucoup plus forte avec les immigrés turcs de l'Allemagne.
Ve 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Made in Germany diye isimlendirebileceğimiz bir Türk-Alman ilişkisi dönemi başladı. Özellikle Almancılarla ve Alman-Türk işbirliği, değişik alanlardaki işbirliğiyle.
Mais il faut toujours il faut ajouter que longtemps cette influence germanique n'a pas eu des effets sur le plan intellectuel, c'est-à-dire les experts sont arrivés en Turquie, c'était surtout les experts militaires et des ingénieurs, mais par exemple la philosophie allemande n'est pas arrivée. C'est un cas un petit peu différent de celle de l'influence française, par exemple.
Bu Alman işbirliği sırasında, değiş tokuşu sırasında gelen uzmanlar askeri anlamda ve mühendislik anlamında değişim yarattılar. Fakat entelektüel anlamda daha çok Fransızların etkisi görülüyor.
Et peut-être puisqu'on arrive à la conclusion de cette émission, je proposerais volontiers à Marie Rilgaz de nous donner quelque chose en termes de perspective. Comment est-ce que Istanbul en général, et peut-être ça arrive asiatique, Kadıköy en particulier, se projette dans le futur. L'Istanbul du XXIe siècle, c'est quoi à l'ère de la mondialisation? Un grand centre économique, financier, ultra-néolibéral?
Mahir Ilgaz'a sormak istiyorum. 20. yüzyılda sonunda İstanbul'un değişimini nasıl anlatacak değişik alanlarda?
İstanbul'da dünyanın önemli çekim merkezlerinden biri haline geliyor belki bir anlamda. Ama bunu tabii ki finansal, işte, mali veya kültürel tek bir alanı kısıtlamak çok da mümkün değil. Ve tam olarak hangi alana doğru evrileceği de aslında çok belli de değil şu anda baktığımız noktada. Ama dünyanın önemli çekim merkezlerinden biri haline geldiği açık ortada.
C'est le point d'attirance Istanbul dans le monde entier. Je ne peux pas le signaliser dans un seul domaine économique ou culturel, mais dans tous les domaines.
Mehmet Rifat.
Et je crois que nous allons parler de plus en plus des gens dans le monde entier de parler de l'Istanbul.
En tout cas, nous on essaye d'en parler sur place et j'espère que vous avez apprécié cette petite promenade autour de la gare de Haydarpaşa sur l'histoire contemporaine de la ville. On va prolonger cette réflexion demain avec un travail autour de l'urbanisme de la ville. On s'intéressera particulièrement aux mutations urbaines d'Istanbul et on y retrouvera d'ailleurs Korhan Gümüş qu'on avait accueilli au cours de cette émission. Peut-être un mot de conclusion, Mehmet Rifat Takbulut.
Avant de finir, je veux prolonger mes salutations à mon collègue Michel Jollet de Paris, ethnographe urbain, dont il y a quelques mois, nous nous sommes promenés dans les rues de Kadıköy, dont il a fait un texte qui est paru dans la revue Urbanisme, c'est le numéro spécial d'Istanbul. De la revue Urbanisme, qui porte le titre de Promenade à Kadıköy.
Bien, pour prolonger donc cette émission, vous pouvez lire cette revue. Avant-hier, on avait terminé ce travelling radio en buvant du thé, hier en buvant une bière. Je crois qu'aujourd'hui, on va terminer celui-là en dégustant un balık ekmek, un sandwich au poisson. Bon appétit.
Evet, kan veriyor. Ya,